Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Tu captes plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Oh là là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas réveillé ce matin. Oh là là, je sais pas où on est. Oh là, mais oui, ça y est, je commence à comprendre. Mais suis-je bête? Mais oui. Aujourd'hui, nous baladons au Salon international de l'agriculture situé au parc des expositions à la porte de Versailles à Paris, hein. À la réalisation technique aujourd'hui, Raphaël, Kumba qui nous accompagne, hein, tout se passe bien pour vous, tout est prêt, tout est calé pour Zuplex?
Oui, c'est nickel, Gaspard.
Ok, bah c'est génial. Alors c'est parti pour l'étincelle. De vous touche, chers auditeurs, qui êtes confortablement installés à votre poste de radio, téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou même votre enceinte connectée grâce à Internet dans le monde entier, vous êtes sur Allegre FM 93.1, sur la bande FM, sur le DAB, ou même en podcast sur AllegreFM.org, que vous soyez dans votre voiture, chez vous ou à votre travail, vous écoutez l'étincelle dans la ville. Avec nous aujourd'hui, Laurent Debertier, vous êtes le directeur de Francilva, donc la Fédération des syndicats de propriétaires forestiers. Vous allez bien aujourd'hui?
Oui, bonjour à tous.
Écoutez, nous sommes au Salon de l'International de l'Agriculture. Peut-être une première question assez simple. Est-ce que vous vous souvenez de votre première balade en forêt?
Alors, ma première balade en forêt, j'avoue que je ne m'en souviens pas parce que je suis né au milieu de la forêt avec mes parents. Et donc, j'habitais à la campagne au milieu de la forêt. Donc, la toute première, je ne peux pas vous la raconter. Mais j'ai en revanche plein de souvenirs avec mes parents, mes grands-parents au milieu de la forêt.
Écoutez, c'est génial. Et vous venez de quelle région?
Alors moi, je ne suis pas très loin de Paris, mais enfin, je ne suis pas parisien. Je suis dans la région de Compiègne, dans l'Oise, où il y a de magnifiques forêts, tant domaniales que privées.
Écoutez, magnifique région, l'Oise. Donc, je le disais juste avant, hein, vous êtes le directeur de Francilva, donc la Fédération des syndicats de propriétaires forestiers. Qu'est-ce que Francilva et sa filière forêt-bois?
Alors, Francilva, comme vous l'avez dit, c'est une fédération qui regroupe tous les syndicats de propriétaires forestiers. Donc, en France, il faut savoir qu'il y a 3 500 000 propriétaires forestiers qui ont une petite forêt ou une très grande forêt. Là, n'est pas la question. C'est pas une question de surface, c'est une question de propriété. Et tous ces propriétaires sont incités à adhérer à leur syndicat local qui va les représenter, les conseiller, les défendre, les informer. Et tous ces syndicats génèrent une fédération nationale qui se trouve à Paris et que j'ai l'honneur de diriger pour représenter les propriétaires et la forêt privée auprès des ministères, auprès des grands élus et auprès de tous les décideurs en France.
Écoutez, c'est génial. En termes de pourcentage, hein, sans aller dans les détails, combien représente la forêt publique en France et combien représente la forêt privée, hein?
Oui, c'est une très bonne question, et effectivement. Donc déjà, il faut savoir que la forêt française fait à peu près 17 millions d'hectares. Et je ne parle pas de la Guyane, je parle que de la France métropolitaine. Et dans ces 17 millions d'hectares, il y a 3/4 de la forêt qui est privée et 1/4 qui est dite publique, qui est en fait la forêt domaniale qui appartient à l'État ou la forêt des collectivités, comme par exemple les communes forestières. Donc 3/4 de la forêt française est privée.
Okay. Et par exemple, là, nous sommes donc dans le pavillon 4, et juste à côté, là-bas, il y a le stand de l'ONF, donc l'Office national des forêts. C'est quoi la différence entre vous deux, hein?
Oui, exactement. Alors, nous avons nos deux stands, celui de l'ONF, qui est donc le gestionnaire de la forêt publique et des collectivités locales, et le stand de la filière forêt-bois et de Francilva, qui est celui de la forêt privée. Eh bien, nous sommes l'un à côté de l'autre et nous travaillons en symbiose parce que les grands sujets sont communs, bien évidemment, parce que l'ONF s'occupe de la forêt publique, tandis que nous travaillons aux côtés des propriétaires forestiers qui sont, eux, chacun avec leur petite ou leur grande forêt.
Donc, la protection, la sauvegarde de la forêt en France, c'est très important, et même son entretien. Mais si vous deviez dresser un constat aujourd'hui de la forêt française, ce serait lequel ?
Alors le constat, comme tous les constats, si on veut être un peu honnête, il est très ambivalent. D'une part, on peut constater que la forêt française a été multipliée par 2 en 200 ans. Donc elle croît, elle grandit. Chaque année, elle elle compte davantage de bois. Il faut savoir que chaque année, la récolte ne représente que 60% de l'accroissement annuel de la forêt. Donc chaque année, on laisse la forêt grandir et s'étendre. Mais à côté de ça, et c'est pour ça que c'est très ambivalent, la forêt, eh ben, c'est le premier réceptacle du dérèglement climatique et du changement climatique. Et donc nous constatons, depuis déjà plusieurs années, hein, nous sommes des sentinelles et dans ce domaine-là, et nous constatons les problèmes que la forêt rencontre lorsque le dérèglement climatique se fait de plus en plus prégnant. Et donc nous avons un vrai défi pour adapter progressivement et adapter notre forêt à l'avenir et à ce changement climatique dont, bien évidemment, nous ne connaissons pas encore les contours finaux.
Il y a non plus, il y a pas que le réchauffement climatique comme menace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Alors, quand je parle du réchauffement climatique, c'est qu'en fait, c'est souvent un petit peu le chapeau qui entraîne différents dangers, risques et enjeux derrière. Je peux prendre par exemple le développement des incendies en forêt qu'on a tous connu en 2022, à l'été dernier, qui a été très, très compliqué. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait un dérèglement climatique, un stress hydrique, une sécheresse prolongée et très dure qui a fait que les incendies ont été particulièrement violents, avec en plus des phénomènes venteux très forts. Pareil, dans le domaine sanitaire, on a des problèmes sanitaires qui sont dus bien souvent au manque d'eau pendant l'été, donc une fragilisation de nos arbres qui permettent le développement de parasites. Par exemple, on pense aux scolytes de l'épicéa, dont certains d'entre vos auditeurs ont certainement entendu parler, qui ont ravagé et qui ravagent encore les épicéas dans le Grand Est, principalement en France.
D'accord. La protection des forêts, de l'environnement en général, c'est un enjeu et un véritable défi aujourd'hui et même pour le futur, hein. Mais je suis sûr que tout le monde peut y participer, tous ceux qui vont en forêt, tous ceux qui se baladent en forêt. Comment, à votre avis, par exemple, comment ils pourraient aider à sauvegarder et à protéger la forêt ?
Alors là, il faut bien regarder les choses. Il y a plusieurs aspects. La balade en forêt, c'est évidemment quelque chose qui plaît à tout le monde, et moi le premier. C'est c'est un lieu de ressourcement, de calme, et tout le monde en a un grand besoin. Mais en revanche, chacun peut également être un danger pour la forêt. Pour plein de raisons. Ramasser la petite fleur qui est charmante au bord du chemin, piétiner en dehors des chemins une régénération naturelle qu'on ne détecte pas, qu'on ne connaît pas, donc un tout petit départ d'arbre sur lequel qu'on écrase sans le faire exprès. On peut également citer les risques incendies. Il faut savoir que 90% des incendies sont dus à l'homme, et en particulier, on peut penser que quand on se balade, on fait un pique-nique, et ben il y a des risques, voilà. On a également tout le rôle de la propreté en forêt, les décharges sauvages en forêt, c'est une réalité, et là je parle pas plus de forêt privée que publique, hein, ça arrive partout, et tout ça, et quand on parle de décharges, c'est les choses importantes, mais le paquet de cigarettes vides ou le papier gras parce qu'on a pique-niqué en forêt, tout ça, ce sont des petits gestes simples du quotidien qui permettent d'aider notre forêt à passer les caps difficiles.
Oui, et quand vous dites notamment aux incendies, on repense évidemment aux incendies terribles qui ont eu cet été, notamment près de la dune du Pilat en Gironde. Ça a été terrible, malheureusement. Mais revenons un peu à France, ce que fait Francilva aujourd'hui, ses domaines d'activité. Quels sont les métiers en rapport avec la forêt et que l'on retrouve chez vous aujourd'hui ? Quels sont les métiers que vous retrouvez, enfin qu'on peut, quels sont les métiers de la forêt de chez Francilva, que ce soit bûcheron, sylviculteur, etc.
Oui, alors la forêt, c'est une véritable filière qui part de la naissance de l'arbre dans des pépinières, par exemple, et puis qui ensuite viennent en forêt où là, on fait croître et on gère et on exploite la forêt. Et ensuite, tous les transformateurs avec nos amis scieurs, et ensuite toutes les industries qui vont faire un certain nombre de transformations pour arriver jusqu'à des produits finis, de l'ameublement, de la cagette alimentaire, de la palette pour la logistique en France, mais aussi, on peut penser bien évidemment tout ce qui est lié à la construction, comme tout ce qui est poutre, aménagement intérieur, parquet, comme ici, notre stand du Salon de l'agriculture, que je vous invite à venir voir, bien entendu.
Évidemment, n'hésitez pas à aller le voir. Vous êtes situé dans le pavillon 4. Et c'est quoi votre numéro de stand ?
C'est 150.
Ah, vous le connaissez bien. Elle était piégeuse, cette question. Bien vu, bien vu. Et imaginons, donc j'imagine aussi que la forêt, c'est un secteur qui recrute énormément, vu tout l'espace que ça représente en France.
Alors la forêt est un espace, la filière forêt-bois représente près de 400 000 emplois en France. Donc ce sont des emplois qui pour une très grande partie sont non délocalisables et qui en plus sont des emplois qui sont situés dans la ruralité. Donc on est vraiment une filière particulièrement importante pour la vie de nos territoires. Nous recrutons dans le milieu forestier. Alors il faut savoir qu'il y a certains domaines pour lesquels le recrutement n'est pas très simple parce que ce sont des métiers difficiles. Pour reprendre des termes à la mode, c'est un métier où il faut bosser, on se lève tôt, on est parfois sous la pluie, parfois dans le froid, dans le vent, pour un certain nombre de métiers forestiers. Mais c'est un métier également magnifique parce qu'on travaille sur quelque chose qui est né avant nous. C'est nos parents, nos grands-parents qui ont connu la forêt avant nous. Et nous, on travaille pour les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, qui verront pousser le travail qu'on a fait. Donc c'est un travail très noble de travailler dans la forêt. Et c'est vraiment un travail qui a du sens parce qu'il est au plus près de la nature.
C'est un beau travail, c'est un travail noble et c'est surtout un secteur qui recrute. Moi-même, quand je cherchais mon orientation, ce que je voulais faire plus tard, j'ai regardé un peu ce que proposaient les métiers de la filière bois, de la forêt, etc. J'ai même envoyé, petite anecdote, une demande de stage à l'ONF. Bon, je n'ai jamais eu de réponse, mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai changé d'orientation. Mais imaginons que moi, aujourd'hui, je veuille rejoindre, que ce soit l'ONF ou France Silva, ou même une autre filière ou un métier en rapport avec la forêt. Comment est-ce que je fais? Quelles sont les études? Où est-ce que je passe? Quelles sont les universités? Comment je fais?
Alors, il y a autant de métiers, enfin, il y a énormément de métiers dans la filière bois, hein, donc tous les métiers techniques, de techniciens forestiers, etc., où là, on travaille au plus près de la forêt et du bois, mais il y a tous les métiers qui sont ceux d'une filière. Par exemple, si vous, demain matin, vous m'appelez en me disant « je cherche un job », évidemment, vous, journaliste, je vous dirais que dans la communication, nous avons énormément besoin de capacités et d'expertise. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi aujourd'hui, au regard de certains discours avec beaucoup de fake news sur la forêt, qu'on a besoin de communiquer pour expliquer nos métiers, expliquer l'importance de la forêt. Donc, je prends l'exemple du journaliste et du communicant, mais nous avons besoin aussi de gestionnaires forestiers, j'en ai parlé, d'experts forestiers. Nous avons besoin aussi de toute la filière du sciage. Nous avons besoin de réindustrialiser notre pays pour pouvoir avoir de la deuxième et troisième transformation en France, ce qui manque et ce qui permettrait de limiter les exportations de bois, pour travailler le plus possible en circuit court, ce qui est évidemment à nos yeux le plus vertueux.
Et voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, revenons un peu sur votre stand. Il est magnifique, hein, il est fait tout en bois. Hein, c'est assez logique quand on y repense. Il est fait en bois de quoi? Il est fait en bois de quoi, votre stand?
Alors, il est fait exprès de plusieurs bois. On a voulu montrer que la forêt française, ce n'est pas une forêt, ce sont des forêts. Des forêts qui sont variées en fonction de la région, du climat, de la station, c'est-à-dire des sols et des conditions locales. Et ces forêts génèrent des arbres très différents. On a une majorité de feuillus en France, deux tiers de la forêt française est feuillue, avec évidemment l'arbre roi qui est le chêne, mais ce n'est pas le seul, on a du hêtre. Alors votre table là est en chêne, par exemple, on a du hêtre, on a du frêne, on a plein de feuillus intéressants, le peuplier, et vous voyez derrière moi là, le bois beaucoup plus blanc, c'est du peuplier, nous avons du frêne également, et puis les claire-voies que vous avez derrière vous, eux sont en résineux, c'est en maritime, qui est un résineux qu'on a énormément également en France, et je pense au sud-ouest, que je salue ce soir pour les Parisiens qui viennent du sud-ouest, avec beaucoup de pain maritime qui nous a permis de réaliser ces claires-voies.
Eh oui, il est magnifique votre stand. Et qu'est-ce que vous proposez aux enfants, aux jeunes adultes, ou même aux grands pour leur apprendre les métiers du bois sur votre stand, de la forêt?
Alors là, nous sommes vraiment un stand en filière. Donc, on parle de France Silva avec les propriétaires forestiers pour les renseigner, les accompagner. Mais on parle vraiment de toute la filière. Et donc, on en a un petit peu pour tous les âges. Vous verrez, je pourrais vous le montrer. Nous avons un petit livre pour les enfants qui explique un petit peu les travaux en forêt, le béaba de ce qui se passe dans une forêt pour montrer qu'une forêt, c'est un milieu vivant, c'est un milieu naturel, mais c'est un milieu qui évolue dans le temps et qui est cyclique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une photographie sur une forêt, ce n'est pas réaliste. Une forêt, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Ensuite, pour les jeunes, nous avons toute une partie qui est là pour expliquer les métiers du bois, quelles études faire, quelles possibilités on a, aussi bien au cœur des forêts que des métiers davantage dans le commerce, etc. Et enfin, nous avons pour tout un chacun, parce que si nous sommes au Salon de l'agriculture, c'est pour rencontrer tous nos concitoyens, et bien nous répondons à toutes les questions, aussi variées qu'elles soient, sur aussi bien le bois énergie, l'écologie, le carbone que la forêt capte et toute la biodiversité en forêt. Il faut savoir que le premier milieu où la biodiversité se porte bien en France, c'est en forêt. Et ça, il faut savoir le souligner, c'est une grande richesse que nous avons.
Et il est très important de le rappeler. Sur Aligre, c'est l'étincelle dans la ville, votre émission consacrée à tout ce qui brille dans la ville, tout ce qui scintille et que l'on ne voit pas souvent ou qu'on rate. Si dans votre ville, si dans votre univers, quelque chose brille et passe inaperçu, que ce soit une initiative personnelle ou collective, que ce soit un événement, bref, et que vous voulez nous en faire part pour une émission, c'est simple, une adresse mail, l'étincelledansla ville@gmail.com, l'étincelle dans la ville tout attaché, sans majuscule, sans ponctuation, suivi de @gmail.com. Merci Laurent Berthier, je rappelle, vous êtes le directeur de Francilva, donc la Fédération des syndicats de propriétaires forestiers, et on peut vous retrouver au pavillon 4 sur le stand.
Eh bien écoutez, je vous remercie, on vous attend et on est vraiment prêt à vous accueillir pour parler de forêt parce que c'est un milieu passionnant et c'est ce qui nous fait vivre tous ici.
Bah écoutez, merci beaucoup. Il est temps de faire une petite pause musicale. Nous allons écouter La Terre meurt de Charles Aznavour.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Un album et une chanson engagée pour la protection de la planète. Allez, on l'écoute.
Les océans sont des poubelles. Les fronts de mer sont souillés, des Tchernobyl dans ribambelle voient naître des fœtus mort-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise, nul ne s'en soucie. Et pourtant des espèces devenues rares sont en voie de disparition, et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie. Un point, c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt. Où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre, et nul ne s'inquiète de l'eau. En sont la flore et la faune, et qu'advient-il du firmament privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent, et l'on gave les champs majuscule du rendement et du progrès. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie. Un point, c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt. Où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien. Il se fiche de l'existence des baleines et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau. Et dans les grandes marées noires, le mazout engle les oiseaux. La société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie, et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme s'en fout, un point, c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous, la terre meurt. Où allons-nous? La terre meurt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'était La Terre Meurt de Charles Aznavour. Nous sommes toujours au Salon international de l'agriculture et nous sommes en compagnie de notre deuxième invité, Rémi Dumas, donc qui est le vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Peut-être une petite question pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes allé dans un champ? Est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous êtes allé dans un champ de maïs, de blé?
Dire que je suis né dedans, ça serait un peu prétentieux, mais c'est vrai qu'être issu d'une famille agricole, on va très vite dans la nature et donc dans la campagne qui nous entoure. Et on a la chance, quand on vit là-dedans, en fait, d'être baigné de suite dans ce milieu-là. Et après, il faut que, voilà, on évolue et puis on voit aussi le monde se transformer autour. Mais on a toujours cette fibre, en fait, qui reste en nous de dire, ben voilà, on a vu ça dès notre plus jeune âge et du coup, on essaye de le préserver et de l'entretenir et puis de le cultiver aussi, ces terres nourricières.
Voilà, je vous ai présenté. Vous êtes donc le vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Déjà, pour commencer, pour nos auditeurs, pour nos auditrices qui ne vous connaissent pas, qui est-ce que c'est le syndicat Jeunes Agriculteurs?
Donc, Jeunes Agriculteurs est un syndicat agricole de défense du métier d'agriculteur, principalement des jeunes, donc issus de 18 à 38 ans pour les élus. Et donc, on est là pour défendre les positions de la jeunesse, surtout impulser les conditions d'installation, de transmission et aussi de promotion de notre métier. Et puis, en plus généralement, de faire remonter les problématiques de terrain, en fait, d'apporter... tout ce qui peut se passer sur l'ensemble des territoires français, métropolitains et outre-mer, et particulièrement travailler sur cette installation, sur le renouvellement des générations avec un enjeu fort. Hein, d'ici moins de 10 ans, plus de 50% des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite. Donc il y a un fort enjeu là-dessus pour aller promouvoir le métier, dire qu'il existe, mettre les bonnes conditions pour que les jeunes puissent s'installer dans le milieu agricole et puis aussi les bonnes conditions pour que les exploitants en place puissent transmettre leur exploitation dans de bonnes conditions.
Alors, on est à l'entrée du pavillon 4, au Salon de l'agriculture, et je vois notamment sur votre stand les logos Jeunes Agriculteurs et également Demain, je serai paysan. C'est quoi la différence entre les deux?
Donc, Jeunes Agriculteurs et donc le syndicat agricole de défense. Demain, je serai paysan, c'est une association à part entière qui a été impulsée par le syndicat. Et aujourd'hui, cette association, elle se veut de regrouper en fait l'ensemble des filières agricoles, l'ensemble des organismes professionnels agricoles derrière une seule marque pour faire la promotion du métier d'agriculteur auprès des écoles. Donc le but, c'est que chaque agriculteur puisse prendre un petit peu de son temps pour aller promouvoir son métier, le présenter dans les divers milieux scolaires, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée. Et donc l'association est là pour encadrer entre guillemets un peu tout ça et puis apporter des supports pédagogiques adaptés à tous les niveaux et donc mettre un petit peu en confiance les agriculteurs et puis faire le lien aussi parce qu'il est assez difficile, mine de rien, de rentrer dans une école et d'aller... promouvoir son métier. Donc nous, on travaille, on a la chance d'avoir le haut patronage de trois ministères, l'agriculture, l'éducation et le travail, et donc notamment les ministères de l'éducation, et le ministre viendra vendredi sur notre stand pour justement travailler ensemble et de dire, tous les métiers sont importants, mais nous, on a un déficit aujourd'hui de pouvoir promouvoir notre métier, et donc comment on travaille ensemble avec l'éducation nationale pour aller dans les écoles, juste dire que notre métier existe, que le lien entre l'alimentation et notre métier de production, comment il est, comment il se fait, et en fait montrer la réalité, casser un peu les clichés aussi qui peuvent être mis par-ci par-là, et qui mieux qu'un agriculteur pour le faire. Donc l'association est là pour ça.
Oui, voilà, il faut absolument cacher les clichés. Et d'ailleurs, votre syndicat et votre association, du coup, Demain je serai paysan, elles existent depuis combien de temps?
Alors, le syndicat a 62 ans.
Joyeux anniversaire.
Merci. Et l'association, alors la marque existe depuis longtemps, mais l'association, elle est née en 2021. Donc, c'est tout jeune pour le coup. Et ça a été impulsé parce qu'on voyait qu'il y avait un déficit, en fait, de promotion de métier.
D'accord, d'accord. Donc vous êtes situé à l'entrée du pavillon 4. Aujourd'hui, les paysans, les agriculteurs sont très importants pour la société et continueront de l'être dans le futur. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ils sont de moins en moins, car c'est un métier qui n'attire plus autant. À votre avis, pourquoi ? Il y a peut-être des clichés aussi, on en a parlé juste avant.
Ben, je pense que le métier est méconnu en fait. Et la problématique que l'on a au milieu agricole, c'est qu'à travers les différents médias, soit c'est tout rose, j'ai envie de dire, ou soit c'est tout noir. C'est-à-dire que bien souvent, il y a des reportages qui sont faits lorsque il y a des crises agricoles, lorsqu'on a beaucoup d'aléas climatiques. Et depuis de nombreuses années, malheureusement, on subit ces aléas-là. Mais il manque d'émissions pour montrer la réalité de notre métier. Et en fait, nous, ce qu'on demande, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on essaye ben, justement d'être le plus visible possible, d'être le plus au contact possible du grand public. Et là, notamment avec le fonds de dotation Jeune Agriculteur qui s'appelle Terre Innovante, ou avec nos partenaires et nos mécènes, on essaye de faire des communications grand public pour montrer la réalité du terrain, pour montrer notre agriculture, pour en fait juste dire qu'on existe et voilà ce qu'on fait de bien et comment on le fait. Parce que si on a le prisme d'un journaliste au milieu, ben malheureusement, c'est orienté d'un côté ou de l'autre. Et quand nous, on fait passer notre message, on montre juste la réalité.
Bon, vous êtes quand même un syndicat assez connu, mais j'imagine que vous n'êtes pas le seul quand même. Il y a quoi d'autre comme autre syndicat, à part Jeunes Agriculteurs ?
Ben vous avez la FNSEA, qui est un syndicat agricole avec lequel nous travaillons aussi sur pas mal de projets. Et puis d'autres syndicats qui entourent aussi, quoi.
Voilà, et c'est très important de reparler des agriculteurs. Il faut en parler aujourd'hui. On est au Salon international de l'agriculture. Et les agriculteurs, c'est peut-être un métier d'avenir. Imaginons que moi, là, aujourd'hui, je voudrais devenir agriculteur. Comment est-ce que je fais ? Par où est-ce que je passe ? Quelles sont les études ? Mais les parcours ?
C'est vrai qu'agriculteur, déjà, c'est un métier qui a du sens. C'est un métier d'avenir parce qu'on mangera toujours. Et c'est vrai que c'est toujours valorisant de produire la nourriture, en fait, de tout un pays. Pour être agriculteur, il existe une porte d'entrée qui s'appelle le point accueil installation, notamment, qui est présent dans l'ensemble des départements, où là, vous pouvez avoir un interlocuteur qui vous orientera justement sur les formations à avoir et derrière toutes les aides aussi à l'installation que vous pouvez avoir, notamment la DGA, dotation jeune agriculteur, qui est portée par le syndicat et qui est là un accompagnement humain et un accompagnement financier pour pouvoir réussir son projet. Parce que agriculteur, c'est vrai que c'est un beau métier, mais c'est un métier. Et c'est un métier qui est très divers et varié. On est des chefs d'exploitation, des chefs d'entreprise, parce qu'on doit faire autant la production que de la comptabilité, de la gestion de personnel, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de formation pour être agriculteur. Et donc, à travers le point d'accueil d'installation, c'est une porte d'entrée. Après, vous avez les chambres d'agriculture qui peuvent vous accompagner aussi. Et voilà, il y a plusieurs cursus, en fait. On peut arriver à l'agriculture à n'importe quel moment, j'ai envie de dire.
Et il faut soutenir les agriculteurs. Si vous aviez un message aujourd'hui à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils supportent, afin qu'ils supportent les agriculteurs, ce serait lequel ?
Ben, je pense que c'est déjà ne pas avoir de méfiance quand on ne connaît pas. Parce que bien souvent, encore une fois, notre image peut être dégradée ou mal comprise. Donc c'est déjà à chaque fois qu'il y a des portes ouvertes dans les fermes ou des endroits comme le salon de l'agriculture, par exemple, c'est d'aller à la rencontre des agriculteurs qui vous parlent de leur métier, de la réalité de notre quotidien. Parce que, voilà, en fait, il faut comprendre que l'alimentation, elle arrive de quelque part. C'est la production. Donc c'est pour ça qu'on se bat notamment pour avoir des terres agricoles, pour avoir aussi de l'eau on a besoin d'eau pour produire. Et puis, on a besoin d'un tas de gens qui nous entourent. Et donc, c'est ne pas venir avec une arrière-pensée, c'est de se dire, ben voilà, on a besoin des agriculteurs, donc on a besoin d'une agriculture de proximité. On a l'agriculture la plus durable, l'alimentation la plus durable du monde en France. Et donc, une des agricultures les plus durables parce qu'on fait des efforts depuis des années. Et donc, ne pas avoir cette méfiance-là. Et forcément, pour nous aider, le meilleur moyen, c'est d'acheter, bien sûr, les produits français, d'avoir des produits qui nous rémunèrent aussi, parce que ben, c'est un métier, donc on a besoin d'une rémunération correcte de nos produits. Et si aujourd'hui, ça coûte plus cher, malheureusement, c'est parce qu'on a beaucoup de normes et que ça nous coûte plus cher à produire.
Est-ce que la vente directe, par exemple, ça peut aider les agriculteurs ?
Il n'y a pas un seul circuit de distribution. En fait, c'est encore une fois, on a besoin d'une multitude de modes de production et on a besoin d'une multitude de modes de commercialisation. Donc, les gens qui aillent dans un magasin de producteurs, c'est toujours mieux, on va dire, parce qu'il y a une certitude de bonne rémunération pour l'agriculteur. mais même tout le monde va dans un supermarché, il ne faut pas s'en cacher. Mais par contre, quand on fait déjà l'acte d'acheter français, c'est une première partie de bon sens, on va dire, pour aider l'agriculture. Après, charge aussi aux intermédiaires, notamment en grande surface, mais de réduire leurs marges, et ne pas faire leur beurre sur les agriculteurs, on va dire. Et donc de pratiquer des prix corrects qui puissent être rémunérateurs pour l'ensemble de la chaîne.
On approche déjà de la fin de cette émission. L'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. Merci beaucoup, Rémi Dumas. Donc, je rappelle que vous êtes le vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Sur Aligre, c'était l'étincelle dans la ville, votre émission consacrée à tout ce qui brille dans la ville, tout ce qui scintille et que l'on ne voit pas souvent. Je le rappelle, mais si dans votre ville, si dans votre univers, quelque chose brille et passe inaperçu, que ce soit une initiative personnelle, collective, que ce soit un événement, bref, et que vous voulez nous en faire part pour une émission, c'est simple, une adresse mail, l'étincelledansla-ville@gmail.com, l'étincelle dans la ville, tout attaché, sans majuscule, sans ponctuation, suivi de @gmail.com. Également, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au Twitter et au Facebook de notre émission, mais aussi à l'Instagram d'Aligre FM. Et enfin, vous pouvez aller sur notre site internet, aligrefm.org. Toutes les informations et les podcasts sont dessus. Excellente journée, à la prochaine. L'étincelle dans la ville, c'est terminé.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.